Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, ça y est, c'est la rentrée de Cinérama. On est parti pour une nouvelle saison radiophonique avec un menu qui n'évolue pas, des chroniques sur des films qui sortent, des interviews et des blind tests. Mais pour cette première émission, on a décidé de ne proposer que des chroniques de films, histoire de soutenir les salles qui en ont tant besoin. Alors il se trouve que ces films, dont la majorité est dans les salles depuis le 2 septembre, sont des œuvres qu'on a appréciées et on imagine que vous prendrez aussi du plaisir à les voir. On vous parlera de Police, le film d'Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Efira, de Poisson sexe avec Gustave Kervern, d'Emma, du très doué Pablo Larraine, ou encore d'Antigone. On vous parlera aussi de films sortis à la fin août, comme le film d'épouvante The Rental, mais on commence par le film fantastique Les Nouveaux Mutants.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Savez-vous ce qu'est un mutant? L'un de vous souhaite raconter sa première fois?
J'avais 13 ans. Je maîtrisais plus rien.
J'en sais rien. J'ai paniqué, il y a eu des blessés.
C'est ma copine. Je l'ai brûlée vive.
Iliana,
j'ai tué 18 personnes, une par une.
Les Nouveaux Mutants, réalisé par Josh Boone, c'est le premier spin-off de la saga X-Men. Et c'est aussi un film qui a connu un destin compliqué, puisqu'il a subi pas moins de 4 reports de sortie depuis 2017. Alors certaines mauvaises langues prétendent que tous ces reports n'étaient que des prétextes pour éviter à Disney de sortir un film qu'ils jugeaient trop mauvais. On pourrait répondre à cela que sortir des mauvais films me semble pourtant n'avoir jamais vraiment gêné Disney. Dans Les Nouveaux Mutants, Dani, une adolescente amérindienne qui est également une mutante, se retrouve enfermée dans un institut spécialisé après que sa réserve ait été détruite dans des circonstances inexpliquées. Elle y fait la connaissance de 4 autres jeunes mutants enfermés dans cet institut en compagnie de la professeure Cecilia Reyes afin d'apprendre à contrôler leurs pouvoirs, mais des phénomènes étranges commencent à advenir.
On n'est pas dans un hôpital, on est en cage.
J'ai vu quelque chose. Un truc qu'elle voulait pas que je voie. Je crois pas qu'on soit là pour guérir.
Cet endroit fait ressurgir tes plus grandes peurs. Il te les fait revivre jusqu'à ce qu'elle te tue.
L'enjeu principal du film était de rafraîchir un peu l'univers Marvel en proposant un film de super-héros qui soit à la croisée des genres entre teen movie et film d'horreur. Sur le principe, pourquoi pas, on a déjà constaté que les mélanges de genres pouvaient très bien fonctionner avec par exemple Logan, Shazam ou encore Deadpool qui mélangeaient comédie et film de super-héros. Le problème ici, c'est qu'en voulant mélanger film d'horreur et film de super-héros, Josh Boone était soumis à un cahier des charges handicapant. Le film devait viser la classification interdite au moins de 13 ans non accompagné et ne pas la dépasser, ne pas tomber donc dans la classification interdite au moins de 17 ans, il devait rester accessible à un large public, ce qui limitait l'angoisse et le gore que le cinéaste pouvait mettre dans le film. Mais au-delà de ça, le problème semble vraiment être la mise en scène en elle-même, puisque toutes les idées dans le film qui pourraient s'avérer effrayantes sont très mal exploitées, ne générant à aucun moment la moindre émotion, si ce n'est parfois un rire gêné. Les Nouveaux Mutants ont fait donc comme les films d'horreur qui n'ont pas d'idées, en se contentant de faire reposer la peur sur des effets sonores ultra violents, ce qui n'est pas angoissant, mais juste très agaçant. L'autre enjeu principal était de rajeunir l'univers des X-Men en proposant un film de super-héros qui soit aussi un teen movie, avec de nouveaux personnages qui incarneraient la relève des X-Men. Alors, est-ce dû aux multiples coupes que le film a subies? Toujours est-il que les personnages apparaissent ici totalement stéréotypés et inintéressants, la palme revenant aux deux personnages masculins qui sont totalement invisibles, et dans le cas présent, ça n'est pas un super pouvoir, la plupart des comédiens semblant n'être absolument pas dirigés, et se laissant aller aller à un surjeu très pénible. Ici, la révélation des super-pouvoirs des jeunes mutants est une allégorie de la puberté, du passage à l'âge adulte. Alors ça, déjà, ça n'est pas très novateur, hein, puisque c'est déjà l'idée centrale que l'on retrouvait dans Spider-Man et également dans le moins connu et très intéressant Chronicle. Là où les nouveaux mutants échouent aussi de façon maladroite, c'est que le film aimerait s'imposer comme une fable sur la différence, mais il n'ose pas aller au bout de son propos. Il y a pourtant dans le film de bonnes idées, hein, le personnage principal est amérindien, une communauté qui est rarement représentée dans les films hollywoodiens. Il y a un couple lesbien également qui se forme, et le fait que cela apparaisse de façon très naturelle dans un film de super-héros est clairement bon signe quant à l'évolution des mentalités. Il y a également dans le film des références aux thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles, des références à la découverte de la sexualité, à la masturbation, à l'automutilation, bref, beaucoup de thématiques en lien avec l'adolescence, mais qui ne parviennent pas à donner au film la profondeur qu'il aimerait avoir, échouant à en faire plus qu'un divertissement raté, axé autour d'une rhétorique ultra simpliste sur le bien et le mal, dans laquelle rien ne sonne juste.
Ce truc va te tuer !
Il a raison, ce truc est magique !
Oui, moi aussi.
Attends, il y en a !
Les Nouveaux Mutants est dans les salles depuis le 26 août. Après Jackie, sorti il y a 4 ans, où Pablo Larraín nous plongeait pendant 4 jours dans la vie de la première dame américaine, après l'assassinat de son mari, John Fitzgerald Kennedy, le réalisateur chilien suit une toute autre figure avec Emma.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Le réalisateur chilien Pablo Larraín s'est fait une belle réputation en France et dans le monde entier en 2012 avec No, le récit passionnant de la période correspondant à la chute de Pinochet, au travers d'un jeune et brillant publicitaire interprété par Gael García Bernal. Ces deux derniers films, ce sont des biopics inspirés, d'abord Neruda et ensuite Jackie, sorti à quelques semaines d'intervalle, un biopic sur Jackie Kennedy qui mettait admirablement en scène Nathalie Portman. Pablo Larraín s'est imposé comme un réalisateur doué et dont les longs métrages sont maintenant attendus. Alors avec Emma, il quitte le biopic pour une sorte d'exploration de la jeune génération chilienne, prenant la forme d'un portrait intimiste et exalté, celui d'Emma, évidemment, qu'on retrouve dans le titre. Une jeune femme brûlante qui donne le ton dès les premières images, puisqu'on la voit avec un lance-flamme mettre le feu, un feu tricolore, dans une rue dépeuplée de Valparaiso, au Chili. Mais il ne s'agit pas ici de suivre un combat, cette image est davantage métaphorique et l'illustration d'un état d'esprit. Emma est une jeune danseuse habitée par un feu et elle brille tel un soleil auprès de son entourage qui gravite autour d'elle comme des planètes. Pourtant, ce personnage, eh bien, on l'aborde de la plus indélicate des manières, celle de la mauvaise mère. Emma est mariée à un chorégraphe réputé, un distant Gael García Bernal. Le couple s'est vu retirer un enfant qu'il avait adopté. Cet enfant, un Colombien âgé de 12 ans, a été au centre d'un drame familial puisqu'il a partiellement cramé le visage de la sœur d'Emma en jouant avec des allumettes. Alors le couple règle ses comptes tandis qu'il se désagrège sous nos yeux. Pendant ce temps-là, Emma se fait rejeter par l'assistante sociale, l'école dans laquelle elle donne des cours de danse, et même eh bien, sa propre mère. Dur de vivre avec cette désadoption qui lui colle à la peau, mais le récit tout en vagabondage n'est pas dans la description d'un repentir ou d'une honte, mais plutôt dans la tentative de reconstruction. Emma, qui est de tous les plans, ne va jamais se justifier, mais se transformer sous nos yeux. Elle va recomposer une famille, alors à sa manière, et le film comporte un retournement final qui nous montrera l'étendue de cette transformation. En choisissant un personnage de danseuse, le réalisateur chilien nous emmène dans l'émancipation du corps et de l'individu à travers la danse et sa part instinctive. Une danse qui va évoluer. Si au départ on est davantage sur un plateau de danse pour y voir un ballet des corps, on se retrouvera bientôt dans la rue. Dans une scène éclairante, Pablo Larraín confronte le regard du chorégraphe qui a 10 ans de plus que sa jeune épouse sur le reggaeton avec la jeune génération qui s'en est emparée. Alors pour l'un, c'est une musique et une danse qui abrutit la femme, et pour celle qui le pratique, eh bien, c'est un moment d'émancipation et un moment de transe comparable à ce qui peut se jouer dans l'acte sexuel.
Entre tu cuerpo y el mío, hay universos que debes ver.
¿Qué hago lo que quiero?
No, justo eso. Es que no puedes hacer lo que quieres.
Emma, te voy para la guerra. Y puede que nunca más volvamos a ver tu hermoso cuerpo, así que te vamos a despedir ahora.
Es la vida y yo te bailo la vida.
S'inspirant du chemin pris par son héroïne et de ses détours, la mise en scène de Pablo Larraine est d'une grande puissance visuelle et s'articule autour des rencontres et des actes de son héroïne. Alors, outre le caractère émancipateur de la danse, on y voit une jeune femme aller de rencontre en rencontre, d'explication en explication, et redéfinir la trajectoire de sa vie. Emma n'a rien d'un film facile, le réalisateur se prête à un récit éclaté avec des passages oniriques, mais heureusement que cette mise en scène parvient à tenir tous ses personnages, car le scénario n'est pas des plus commodes. Le retournement final, où l'on voit la réinvention des codes de la famille, sera peut-être dur à avaler pour certains. Alors l'héroïne, une jeune femme blonde platine, hein, crève l'écran, largement accompagnée par une musique du compositeur new-yorkais Nicolas Jaar. La sortie d'Emma a été programmée le 15 avril dernier, il est dans les salles depuis le 2 septembre. Gustave Carverne a sorti son film Efface l'historique avec son complice Benoît Delepine, mais voilà qu'il est aussi devant la caméra dans Poisson sexe, une belle surprise.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Je vous rappelle qu'on n'a pas vu la queue d'un poisson sur les côtes françaises depuis 2 ans.
Connaissez-vous l'axototle ? Alors à moins d'être familier avec les animaux marins, il est probable que beaucoup de gens se laissent avoir par l'apparition de cet être vivant visqueux. Alors dans ce drôle de film, hein, Poisson sexe, pensant qu'il s'agit d'un petit monstre en image de synthèse. Alors que nenni, il existe, l'axototle se présente comme une sorte de salamandre néotantique, c'est-à-dire qui reste à vie à l'état larvaire. Alors fait le plus étrange, hein, il est capable de se régénérer constamment. Alors la présence de l'axototle dans Poisson sexe n'a rien du gadget, elle est au contraire la raison d'être du film, prolongement psychique du personnage principal, laissant au spectateur le soin d'interpréter à sa guise sa fonction symbolique et métaphorique. Il est clair que l'amphibien fait écho avec la solitude de Daniel, physicien obstiné travaillant dans un labo dirigé de main de fer par une scientifique ayant perdu un peu de son humanité dans une société où les animaux ont quasiment disparu. Alors Daniel tente, alors que Miranda, l'ultime baleine en vie, capte l'attention du monde entier, de redonner aux poissons le désir de copuler. Alors célibataire endurci et dépressif, il est aussi hanté par la paternité et compte bien résoudre le problème en s'inscrivant sur un site de rencontre. Mais les coïncidences sont parfois heureuses. Le jour où il sauve l'étrange poisson à pattes, l'axototle, donc, sa vie bascule. Il découvre l'amour là où il ne l'attendait pas.
Il y a des millions de mecs qui fuient l'idée d'avoir des gosses et toi, tu veux changer tes couches. Pourquoi ils sont merdés avec ça ?
Les enfants, c'est la vie, c'est l'avenir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de femmes à Belle-Rose. 35 000 habitants, 50,21% de femmes en âge de procréer.
T'es un grand malade, hein ?
Tu retires les 7860 qui vivent en couple, ça fait
4. Hein.
Troisième long métrage d'Olivier Babinet, hein, après Robert Mitchum est mort et Swagger, documentaire réussi qui connut d'ailleurs un vrai succès d'estime à sa sortie en 2016. Poisson sexe s'inscrit dans une veine assumée de la rom-com contemporaine. Alors les codes de la comédie sentimentale hollywoodienne sont intelligemment réactivés à l'intérieur d'une dystopie décalée et nonchalante, prenant appui sur des tests très crédibles. Et oui, la dimension fantaisiste soutient néanmoins une fable écologique qui, même dans le registre de l'anticipation, s'inspire des recherches scientifiques réalistes. Alors à l'intérieur de cette adroite combinaison entre la description d'un futur proche inquiétant et le portrait d'un homme à la recherche de l'amour, Olivier Babinet en profite pour multiplier les scénettes loufoques, les éléments étranges, les dialogues absurdes entre les personnages. La mise en scène épurée et sophistiquée, hein, rappelant parfois le travail d'un Alex Varmerdam, connu pour son film qui s'appelait Abel, est soutenue par de jolis éclairages aux couleurs chaudes et une musique entêtante mêlant électronique et folk, signé Jean-Benoît Dunkel de R. Alors l'alternance entre les magnifiques paysages et les intérieurs rétro-futuristes apporte un souffle réel à cette œuvre au romantisme un peu suranné.
La dernière baleine vivante se dirige vers les côtes atlantiques. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ça vous dirait de boire un verre ce soir ?
Moi ? Rien de ce mec. Et là, il y avait mes piranhas. J'ai étudié le langage des piranhas.
Par exemple, quand ils frottent leur mâchoire comme ça, là,
dire j'ai envie de faire l'amour.
Alors, la crainte d'assister à un exercice de style arty à l'étrangeté fabriquée est vite balayée par la littéralité du dispositif, la simplicité des enjeux ne perdant jamais de vue le sujet central, la naissance de l'amour, symbolisée ici par l'apparition inespérée d'un poisson, unique prototype au monde. Alors Poisson sexe, c'est un petit film, hein, mais qui fait du bien, hein, modeste et original, totalement habité par l'interprétation touchante de Gustave Carverne, qui trouve sans doute là son plus beau rôle depuis Dans la cour de Pierre Salvadori. Alors face à lui, India Air confirme la sensibilité de son jeu à l'excentricité maîtrisée. On l'avait déjà vu notamment dans le film d'Alain Guiraudy qui s'appelait Rester vertical, où elle était déjà formidable. Alors ils forment tous deux un couple émouvant et parfois burlesque, suscitant une identification immédiate. On peut dire que c'est une jolie réussite.
Allô ?
Daniel, je suis dans ta tête.
Hein? Qu'est-ce que vous faites, Daniel?
Il parle.
Poisson Sexe est dans les salles depuis le 2 septembre. De la bande originale du film Journal intime Nicola Piovani, Il Campo di Pallone, c'est encore un peu l'été. Faisons maintenant un détour vers Police, film d'Anne Fontaine qui réunit un casting assez surprenant, Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Pourquoi t'es devenue flic, toi ? Me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite.
Non, je voulais être patineuse.
Ah
ouais ?
Oui. Et comment t'es passée du patin au flingue ?
Je sais pas, ça s'est fait comme ça.
Allez, bonne journée.
Merci.
Dans Police, le nouveau film de Anne Fontaine, nous suivons la journée de trois policiers, Virginie, Eric et Aristide. Alors si cette journée commence de façon normale pour eux, hein, à savoir violence conjugale, arrestation et tentative d'infanticide, elle se poursuit ensuite avec une mission inhabituelle, puisqu'ils se retrouvent chargés de raccompagner un étranger en situation irrégulière à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie découvre que l'homme qu'ils sont chargés d'expulser risque la mort s'il retourne dans son pays natal, le Tadjikistan. Commence alors une remise en question pour les trois policiers. Doivent-ils laisser le prisonnier s'enfuir ou obéir aux ordres qu'on leur a donnés?
Un gars doit être présenté à l'avion dans 3 heures, c'est nous qui faisons la reconduite frontière.
Ouais, mais c'est pas notre boulot, quoi. Pourquoi ça nous de faire ça?
C'est le type avec le pull orange, là. Méfiez-vous quand même.
Qu'y a-t-il derrière l'uniforme des policiers? Comment peut-on rester humain tout en appliquant parfois des lois inhumaines? Comment trouver un équilibre entre les ordres de la hiérarchie et sa propre conscience? Anne Fontaine s'interroge sur ces dilemmes dans un film abrupt, simple, percutant, quoique très imparfait. La force de Police, c'est son trio d'acteurs, Virginie Efira, qui interprète une policière en proie au doute, d'autant plus troublée qu'elle entretient une relation adultère avec son collègue et qu'elle est enceinte de lui. Grégory Gadebois, excellent dans le rôle d'un flic dévoué et incorruptible, dont l'apparente rudesse dissimule tant bien que mal une profonde mélancolie. Et enfin, Omar Sy, que j'ai beaucoup critiqué, il est vrai, au micro de Cinérama, mais qui gagne réellement dans Police ses galons d'acteurs.
Ils vont le tuer.
Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour?
Les types, ils exagèrent les menaces pour avoir leur statut de réfugié.
Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste?
Ça te fait rien d'envoyer un homme à la mort?
C'est moi le salaud, c'est ça? J'obéis aux ordres, c'est mon boulot, figurez-vous.
C'est juste un pauvre type.
T'as pas de couilles au cul en fait, hein?
Pas les tiennes en tout cas.
Ça suffit!
Vous me faites chier !
Le point faible du film, c'est sans doute en revanche ses dialogues assez plats, quoique réalistes, mais qui semblent parfois avoir été un peu bâclés, notamment lors du dénouement, où le dialogue le plus important est passé sous silence, comme si la réalisatrice avait opté pour cette astuce pour éviter d'avoir à trop écrire, ce qui enlève quand même toute crédibilité à la fin du film. Ensuite, la première partie du film présente les mêmes scènes filmées selon les points de vue des trois policiers, ce qui s'avère être un dispositif de mise en scène un peu artificiel et un peu répétitif, qui double parfois des scènes sans que cela ait un réel intérêt. Enfin, mention spéciale à l'acteur Peyman Rahadi qui joue ici le migrant Tadjik, mais qui est en réalité un acteur iranien et qui doit composer un personnage quasiment muet mais présent tout au long du film, une performance intense pour celui qui est habitué à être en haut de l'affiche des films de Asghar Farhadi.
Personne n'est innocent, jusqu'à preuve du contraire. 20 ans de service, pas une tâche sur mon dossier, et il a fallu que vous foutiez la merde.
Police est dans les salles depuis le 2 septembre. S'essayer au film de genre permet à certains réalisateurs de montrer de quoi ils sont capables. Défi réussi pour The Rental de Dave Franco.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
C'est dingue toutes les étoiles qu'on voit ici.
J'aurais dû prendre le télescope.
À quoi ça sert un télescope en ville? À moins que vous aimiez mater vos voisins peut-être.
Dans la famille Franco, on demande le petit frère. Attention, alors rien à voir avec le réalisateur espagnol Jess Franco, hein, à la filmographie longue comme le bras, car ici il est question de l'américain, hein, Dave Franco. Alors que son aîné, James Franco, donc, s'est fait connaître avec des séries et des films cultes comme Freaks and Geeks et la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, le petit dernier a tranquillement taillé son bonhomme de chemin avec plusieurs seconds rôles solides. Le voici désormais derrière la caméra, et pour cette nouvelle étape, il a choisi un terrain assez prisé, hein, des jeunes réalisateurs cherchant à se faire les dents avec un budget modeste, le thriller à tendance horrifique.
Je voulais juste te dire qu'on va dehors. Je t'en dis pas plus, t'auras rien à voir avec ça.
Je suis déjà coupable.
Non, pas du tout. Toi, t'as absolument rien fait.
J'ai pas appelé la police. Si on se fait choper, je suis complice de meurtre, comme toi et Mina.
The Rental suit les mésaventures de deux couples qui vont louer une maison luxueuse en bord de mer pour passer un week-end de détente avant la reprise musclée du travail. Et oui, mésaventure, car bien évidemment, ce qui s'annonçait comme étant un séjour de rêve va progressivement se transformer en cauchemar inextricable. Les deux couples sont composés d'un côté de Charlie et Michel et de l'autre de Josh et de Mina. Charlie travaille avec Mina et c'est à l'occasion d'une grosse affaire qu'ils décident d'amener leur conjoint sous la coulée douce. Là où ça devient intéressant, c'est que Charlie est le grand frère de Josh et qu'il y a une petite rivalité entre les deux. Charlie est le gagnant tandis que Josh n'a véritablement que Mina de positif dans sa vie, chose qui étonne le grand frère mais qui ravit sa femme Michel. Elle-même est fière de la réussite de son mari, enfin il s'agit d'un passé plus fantasque en ce qui concerne les relations amoureuses. Tout ce beau monde se retrouve enfermé entre quatre murs. Que pourrait-il bien se passer de mal si ce n'est l'intrusion d'un mystérieux individu déterminé à jouer avec eux ?
Dis-moi que c'est pas une caméra.
C'est pas vrai, j'hallucine.
De son écriture, assumée aussi en partie par Franco, à sa durée finale, un petit peu moins d'une heure trente, The Rental suit à la lettre les codes du genre piochés dans le petit manuel du genre. Ce qui pourrait être un défaut, à savoir un mélange évident d'originalité et une application très sage de Topoï connue de tous, se révèle au contraire être assez agréable au visionnage. Venant d'un milieu où on aime faire la part belle aux acteurs, Dave n'hésite pas à y aller franco en ce qui concerne la focalisation sur les personnages. Cela a pour but de s'accrocher à eux et pas forcément pour les raisons espérées à la base. Car si cette petite troupe n'est pas spécialement attachante hein, ni ne donne envie de les voir s'en sortir à la fin du film, on se met par contre très facilement dans leur peau lorsque l'adversité vient briser le semblant d'unité qui les rendait forts. Très souvent, et c'est un marqueur de la réussite de l'écriture, on se pose la question « Et moi, qu'est-ce que je ferais dans cette situation ?» Et on prend plaisir à émettre des hypothèses quant au bien fondé de telle ou telle décision ou de tel acte entrepris. Vous vous en doutez, le mystérieux individu va s'amuser à les monter progressivement les uns contre les autres grâce à toute une installation électronique pouvant les filmer et les enregistrer, et les quatre souris prises au piège vont essayer tant bien que mal de cacher le plus longtemps possible ce qui a été capté par leur bourreau. On n'échappe pas à la liaison extra-conjugale, au passé pas très glorieux qui refait surface, aux consommations de drogue aux effets révélateurs, à la lutte fratricide et même à un zeste de racisme, mais agencé d'une façon qui fait que nos protagonistes vont s'empêtrer de plus en plus dans une toile méphitique, à la merci d'une araignée perverse.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je sais pas trop.
Si l'épilogue prend bien le temps de nous expliquer comment tout cela a été rendu possible, on aurait quand même aimé en avoir plus lors du troisième acte qui est en fin de compte assez rapide. Sans doute Franco n'a-t-il pas voulu casser la bonne montée en tension opérée jusque-là, ce qui empêche le film de rejoindre sur la longue des petites bandes appréciables des années 90 comme L'ultime souper de Stacy Title ou Petit meurtre entre amis de Danny Boyle. The Rental est donc une agréable location temporaire avant de voir, on l'espère, Franco devenir un vrai propriétaire d'un style bien à lui. A noter que l'affiche américaine reprend le même design que celle de La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher, un film de zombies français intimiste sorti de manière assez confidentielle sur nos écrans en 2018. Une façon de plus de voir que Dave Franco s'intéresse plus à l'intériorité des échanges entre humains qu'à l'ultra spectaculaire.
Ce sera bientôt fini, je te le promets.
Non, ce sera jamais fini.
The Rental est dans les salles depuis la fin août. Deux membres de l'équipe ont vu le film québécois Antigone et l'ont apprécié. Adaptation de la tragédie grecque dans laquelle on suit une jeune femme qui, agissant au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité, aide son frère à s'évader de prison.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Baba, maman, protégez-nous.
Et gardez-nous unis.
Le cinéma québécois se porte décidément bien après les excellents Charlotte à 17 ans et Jeune Juliette. C'est au tour d'Antigone de surprendre. Une belle réussite en ce début de rentrée. Alors la démarche de la réalisatrice Sophie Deraspe s'appuie sur le texte initial de Sophocle, reprenant fidèlement la trame narrative allant jusqu'à reprendre les noms des personnages grecs pourtant intégrés dans un contexte social contemporain. Alors loin d'une coquetterie qui prêterait à sourire, ce choix se révèle pertinent et raccord avec le propos d'un film audacieux dont la qualité est de trouver un équilibre entre le respect à la l'aide de l'œuvre originale et la transposition moderne intégrée dans un cadre réaliste à forte connotation politique. Alors adolescente brillante, Antigone vit avec sa grand-mère, sa sœur et ses deux frères. Après une altercation avec la police, une bavure ôte la vie d'un de ses frères. Alors l'autre est arrêté pour obstruction aux forces de l'ordre. Il est incarcéré et risque l'expulsion de son pays d'origine, l'Afghanistan. Alors Antigone ne peut accepter la situation et aide son frère à s'évader de prison, prenant sa place, en agissant donc avec sa propre justice au détriment de la loi de l'homme. Alors le film trouve sa voie dans un entre-deux, à la jonction d'un drame naturaliste et d'un conte aux résonances fantastiques, à l'instar de la splendide séquence avec la psychiatre aveugle. Alors là, en deux plans, le film bascule dans un surnaturel inquiétant, citant ouvertement Edgar Allan Poe. Alors venu des arts visuels, Sophie Deraspe est quasiment seule maître à bord de son film, cumulant les fonctions de scénariste, réalisatrice, directrice de la photographie et même co-monteuse. On sent une vraie cohérence entre la forme et le fond, une envie de faire du cinéma et pas seulement de l'imaginer avec des intentions vaines.
Maintenant, il faut sauver Polynice.
Là, il est accusé d'assaut sur un policier. Ils prennent ça très au sérieux.
Ça marchera jamais, Tato. J'ai peur pour toi. Fais ce qu'il faut. C'est tout.
Si certains choix esthétiques peuvent crisper, comme ces mini-clips sur fond de rap dès qu'il s'agit d'évoquer les réseaux sociaux, la mise en scène est d'une belle rigueur, à l'instar d'un travail sur l'image et les décors particulièrement intéressant. Alors tous les lieux institutionnels, très épurés, volontairement dévitalisés de toute chaleur humaine, baignent dans des lumières ternes et froides. En revanche, dès que la réalisatrice filme la maison familiale, les échappées dans la nature, les rassemblements des jeunes, elle laisse éclater son goût pictural pour les couleurs vives et contrastées. Elle humanise l'espace, prenant alors un parti fort qui passe par les moyens du cinéma. Elle est tout entière, alors là, sans la moindre ambiguïté, du côté de son héroïne, incarnation d'une rebelle dictée par sa propre loi, celle du cœur et de la raison, et non celle des hommes. Alors, en transposant le récit à l'intérieur d'une famille d'immigrés kabyles, Antigone aborde des problèmes contemporains, trouve aussi un équilibre entre classicisme théâtral et modernité cinématographique. Le jeu hypnotique de Naïma Ricci, comédienne quasi débutante, dégage une exaltation intérieure, une illumination dans le regard, rappelant parfois la Jeanne ou la Jeannette de Dumont. Elle contribue beaucoup à la réussite de ce film ambitieux et modeste. Elle est si convaincante qu'elle éclipse tous les autres acteurs, alors pourtant plutôt bon. Au fond, Antigone réactive un point de vue intemporel en résonance avec ce qui se passe dans l'actualité. Lorsqu'une décision dictée par les instances juridiques ou politiques paraît totalement injuste, faut-il courber les chines ? Faut-il se résigner ? Ou au contraire affirmer plus que jamais le désir de se battre, d'afficher fièrement ses opinions et convictions ? Alors la réponse donnée par Sophie Deraspe est dans un beau geste militant et clair. En ces temps moroses et angoissants, allez voir cette belle proposition de cinéma qui, derrière sa lucidité inquiétante, bavure policière sanctionnée et expulsion à la clé, s'avère le portrait vibrant d'une jeune femme mineure assumant pleinement ses idées. Et ça, ça fait un bien fou.
J'ai enfreint la loi, mais je recommencerai demain. Mon cœur me dit d'aider mon frère.
Comment tu fais ? Comment tu fais pour aimer ton frère ?
C'est tout.
Antigone est dans les salles depuis le 2 septembre.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Ainsi s'achève Cinérama la semaine prochaine. On vous parlera sûrement de La Daronne, Le Bonheur des Uns, Rax, Adolescente et Yuki. Et le blind test fera son retour.
Cinerama. Cinerama. Cinerama.